pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Violette.
Bonjour Imran, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de la recherche en matériaux innovants. Quels sont ces nouveaux matériaux? Comment ces alternatives sont-elles découvertes? Et qui sont les personnes qui font évoluer la recherche?
Notre invité du jour pour répondre à nos questions est le docteur Wilfried Prolier, directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire CRISMAT, spécialisé en cristallographie et en sciences des matériaux à l'université de Caen.
Mais tout de suite, notre flash avec les infos sciences de la semaine.
L'actualité scientifique de cette semaine, c'est aussi la guerre en Ukraine. Jeudi dernier, des combats ont eu lieu aux abords du site de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl. Vers 19h, heure locale, les soldats de l'armée russe ont pris la centrale après de lourds combats. Ces événements ont ravivé l'inquiétude des scientifiques, car 30 ans après le pire accident nucléaire de l'histoire, le site de Tchernobyl est toujours dangereux. Les particules radioactives sont présentes dans les 2200 km² de la zone d'exclusion au nord de l'Ukraine. Dans son rapport transmis au Parlement ukrainien, le Centre pour la sûreté nucléaire du pays y avoir observé une hausse des niveaux de radiation vendredi matin. 21 balises automatiques ont détecté un dépassement des taux limites. Selon l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire française, ces relevés sont toujours en dessous des seuils de dangerosité, mais la prudence est recommandée. Le ministère russe de la Défense a certifié que les équipes de la centrale continuaient à s'occuper des lieux et à en surveiller la radioactivité. Conflit russo-ukrainien toujours. Nous en parlions la semaine dernière dans C'est pas faux, le gouvernement ukrainien avait été victime d'une cyberattaque de grande ampleur, paralysant ses sites internet. Après le lancement de l'opération militaire russe, condamnée largement par la communauté internationale, les Anonymous déclarent à leur tour la cyberguerre à la Russie. Ce collectif composite de hackers l'a déclaré officiellement sur Twitter en précisant que c'était en réaction à l'invasion de l'Ukraine. Le lendemain, le site internet de la chaîne de télévision Russia Today a été mis hors ligne. Après la chaîne pro-Kremlin, les sites web de la présidence russe, du gouvernement et du Parlement ont aussi été momentanément indisponibles. Ces premières cyberattaques ont été revendiquées par les Anonymous qui pourraient prochainement bénéficier de l'aide des Américains. Selon NBC News, le président Biden envisagerait de mener des cyberattaques contre la Russie afin d'entraver ses opérations militaires en Ukraine. Les États-Unis pourraient aussi perturber la connectivité Internet dans le pays, couper l'alimentation électrique ou encore altérer les commutateurs de chemin de fer pour limiter le réapprovisionnement des troupes russes. Avec cette actualité très forte à l'international, on oublierait presque que le Covid-19 est encore présent. Le variant BA2, petit frère d'Omicron, est en voie de devenir majoritaire en France. Mais pourtant, le pic épidémique semble atteint et la baisse des cas depuis le 20 février est massive. L'Institut Pasteur a publié mercredi dernier ses dernières modélisations et BA2 ne devrait pas changer la dynamique épidémique. Pour l'instant, aucune reprise importante du Covid-19 n'est attendue. D'après les simulations au 1er avril 2022, 35% de la population pourrait avoir été infectée par l'un des variants Omicron, et cela aussi de manière asymptomatique. En plus de la troisième dose ouverte à la population générale, l'hypothèse des épidémiologistes est celle d'une immunité quasi collective à Omicron, qui pourrait cependant décliner avec le temps. Selon l'OMS, les dernières connaissances scientifiques concernant BA2 nous permettent d'affirmer que ce sous-variant a une transmissibilité plus forte que son grand frère et une gravité similaire, c'est-à-dire relativement faible. Par ailleurs, depuis hier, le port du masque dans les lieux soumis au pass vaccinal n'est plus obligatoire. Il y a tout juste 24 heures, les scientifiques du GIEC ont publié le deuxième volet de leur sixième rapport. Pour rappel, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été créé par l'ONU en 1988. Il regroupe 195 États et veille à alerter la population sur l'urgence climatique en se basant sur des publications scientifiques. Leur nouveau texte détaille les conséquences du réchauffement climatique sur les sociétés humaines et les écosystèmes. Il passe également en revue les moyens de s'y adapter. D'après le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ce nouveau rapport du GIEC est un recueil de la souffrance humaine et une accusation accablante envers l'échec des dirigeants dans la lutte contre le changement climatique. Le changement climatique est inéluctable et va s'accélérer selon les experts. L'avertissement est apocalyptique, température extrême, sécheresse, inondation, à répétition, ouragan ou montée des eaux. Face à ce constat, la nécessité de s'adapter est primordiale. Sauvegarder la biodiversité et les écosystèmes est fondamental pour un développement résilient au changement climatique, selon les scientifiques. L'inaction n'est plus de mise et les besoins de financement sont aussi urgents. Le rapport du GIEC à destination des décideurs se conclut ainsi. tout retard dans la mise en œuvre d'une action concertée et anticipée en faveur de l'adaptation et de l'atténuation nous fera rater la courte fenêtre d'opportunité qui se referme rapidement pour garantir un avenir vivable et durable pour tous. Et justement, les conséquences du changement climatique sont déjà visibles. Le nord-est de l'Argentine connaît de spectaculaires incendies depuis 2 mois. Aucune victime n'est à déplorer, mais des dizaines de familles ont été évacuées. Des zones cultivées et boisées ont été ravagées. Au total, les feux ont parcouru 785 000 hectares selon l'Institut de technologie agricole, l'équivalent de 2/3 de l'Île-de-France. Les feux sont incontrôlables, nourris par une sécheresse inédite et des vents violents. De l'autre côté du globe, en Australie, c'est l'eau qui menace les habitants. Des dizaines de milliers d'Australiens ont été priés d'évacuer leur maison face aux pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations records. Dans le Queensland, des Australiens ont été obligés de se réfugier sur leur toit. Ces inondations ont fait déjà 8 victimes. La pluie a commencé à faiblir à Brisbane lundi, mais les autorités s'attendent à ce que le temps violent se poursuive cette semaine, car la bombe de pluie continue à se déplacer vers le sud, le long de la côte est.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
À l'heure où les smartphones, GPS et tablettes tactiles sont présents partout autour de nous, certains matériaux rares pourraient manquer à la production durant les années à venir. Entre pénurie, dangers climatiques et droits des hommes, les matériaux rares sont au cœur de l'actualité. Dans les universités françaises, des laboratoires orientent leurs recherches sur les matériaux innovants et cherchent de nouvelles alternatives en pratiquant les sciences des matériaux.
Pour découvrir ce qu'est la recherche en matériaux, nous accueillons en studio notre invité, Wilfried Prélier, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire CRISMAT, le laboratoire de cristallographie et de sciences des matériaux de l'Université de Caen.
Alors tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la science des matériaux ? C'est une discipline majeure et pourtant peu connue.
Alors la science des matériaux est une discipline qui est à cheval entre la chimie du solide et la physique des matériaux. Donc l'idée, c'est d'essayer de, à la fois de fabriquer les matériaux et de comprendre les propriétés physiques de ces matériaux.
Alors on parle des matériaux, ça veut dire qu'il existe plusieurs types de matériaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence, on va dire, entre les principales grandes familles de matériaux ?
Alors, au laboratoire CRISMAT, nous, on travaille beaucoup sur les matériaux, ce qu'on appelle les matériaux fonctionnels, c'est-à-dire que les matériaux qui vont avoir des propriétés physiques particulières, qui peuvent être utilisés dans votre vie de tous les jours, essentiellement pour l'électronique ou des applications similaires.
Alors, il y a des matériaux métalliques, organiques, des matériaux plutôt plastiques, faits de différents composants. En quoi on peut dire qu'un matériau est innovant ?
Le matériau, il est innovant parce qu'il a des propriétés physiques particulières. Et ces propriétés physiques, elles sont liées au fait qu'il y a une structure et donc un ordre particulier à l'intérieur de ce matériau.
Est-ce que vous avez des exemples de matériaux innovants ?
Eh bien, par exemple, on va avoir les matériaux qui vont servir dans les batteries, les matériaux qui vont servir sur des applications dans le numérique. Et ça, c'est des matériaux qui sont ce qu'on appelle innovants.
Alors, où est-ce qu'on peut trouver des matériaux innovants ? J'ai envie de dire géographiquement, où est-ce qu'on les trouve dans la nature ?
Géographiquement, on ne va pas trouver le matériau tel quel. Vous allez trouver dans la croûte terrestre, en fait, des éléments ou alors qui sont sous forme d'alliage et qui sont dans de la roche. Et ensuite, quand vous extrayez ces éléments, vous allez les mélanger d'une façon particulière. Donc, c'est là où intervient la chimie des matériaux et la fabrication des matériaux. Et vous allez fabriquer, en fait, un matériau qui est particulier avec une composition particulière.
C'est une réaction chimique.
Absolument.
Alors, avec toutes ces grandes familles de matériaux qu'Imran nous a citées avant, donc les matériaux métalliques, organiques, plastiques ou minéraux, on va prendre l'exemple des matériaux métalliques. Est-ce qu'ils peuvent être conducteurs ? Quelle est la particularité, en fait, des matériaux métalliques ?
Alors, un matériau métallique, c'est justement un matériau qui va pouvoir conduire l'électricité. C'est-à-dire qu'il va être capable de laisser passer un courant, à la différence d'un matériau qui va être isolant, comme peut être le plastique ou le bois.
Et est-ce que les matériaux peuvent avoir une double fonctionnalité, isolant et conducteur ?
Alors, ça peut arriver en fonction de la température d'utilisation. Vous pouvez très bien avoir un matériau qui va être conducteur à la température, ce qu'on appelle la température ambiante, donc à 20 degrés Celsius, mais il peut être isolant à très basse température ou à plus haute température. La même chose peut arriver en fonction des conditions de pression.
Et il n'y a pas que les matériaux métalliques, que les métaux qui peuvent être conducteurs.
Non, en fait, les matériaux qui vont être conducteurs, c'est des matériaux qui sont métalliques.
Et alors, outre les métaux, il existe une branche de la science des matériaux qui peut avoir une application industrielle. Il s'agit de la branche des céramiques techniques. Alors, en vulgarisant un peu, qu'est-ce qu'un élément céramique ? Est-ce que c'est une poterie ?
Une céramique. Une poterie est une céramique. Mais nous, on a l'habitude de les utiliser essentiellement pour des applications, je veux dire, faire des vases, faire des choses comme ça. Mais en fait, ces céramiques qui sont faites d'une façon particulière peuvent avoir d'autres applications. Il y a eu beaucoup d'applications dans les semi-conducteurs ou dans certains composants.
En science des matériaux, on s'intéresse aussi aux éléments qui constituent la base d'un assemblage électronique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un composant électronique ?
Alors, un composant électronique, c'est un dispositif physique qui va regrouper différents composés qui ont chacun une fonction, donc qui vont chacun avoir soit ils vont être leur but c'est d'être isolant, soit c'est d'être conducteur et qui sont assemblés d'une façon particulière pour un dispositif spécifique.
Ça fait à peu près quelle taille ?
Alors, à l'intérieur de votre téléphone, c'est des choses qui font plutôt de l'ordre de quelques microns, voire bien en dessous.
Et pourquoi dit-on que ça peut être passif, qu'un élément électronique, un composant électronique peut être passif ?
Alors, le fait qu'il soit actif ou passif, c'est le fait qu'il peut produire de l'énergie ou pas. Voilà. Donc, un élément qui est passif est un élément qui est capable de produire de l'énergie, à la différence d'un élément actif. Vous allez avoir d'un côté les composés qui sont des résistances ou des condensateurs. Ça, c'est des composés qui sont passifs. Et vous allez avoir des composés qui sont actifs, qui sont les autres types de composants.
Et dans quel assemblage électronique on peut éventuellement retrouver ? Et donc, à quoi ils vont servir dans la composition d'un appareil électronique ? Vous parliez par exemple de ces éléments qu'on retrouve dans nos téléphones.
Alors, typiquement, ça va servir à l'intérieur de votre téléphone ou d'un n'importe quel composant électronique, votre ordinateur, et ça va être ce qu'on appelle des transistors. Donc, c'est des appareils qui vont servir à faire passer le courant et à envoyer un certain nombre d'informations de manière à avoir l'utilisation souhaitée.
Alors, est-ce qu'on peut les retrouver aussi dans les appareils électroniques plus poussés ou différents d'un smartphone ou d'un ordinateur, par exemple, un sèche-linge ?
Alors, je pense que dans les nouveaux types de sèche-linge qui sont avec des fonctions plus électroniques et avec des écrans tactiles, en fait, ce genre de composant va se retrouver, bien évidemment.
Et alors, quelles sont les étapes entre l'étude des matériaux et l'arrivée d'un nouveau composant ? Comment est-ce que, en fait, quel est tout le processus que vous allez suivre ?
C'est ce qu'on va essayer de faire au laboratoire qu'il y a. Alors nous, on va faire que notre petite partie, c'est-à-dire que le développement de composés qui ont des propriétés particulières. Donc nous, ce qu'on va faire au laboratoire, alors évidemment, on a une histoire, on a une historique, on a des connaissances sur certains types de matériaux avec des propriétés particulières. Et on va essayer de chercher, en fonction de la littérature, en fonction des discussions qu'on a pu avoir des collègues, dans des congrès, tout un tas de choses comme ça. Et là, on va essayer de déterminer en fait d'autres types d'éléments, de propriétés. Après, vous allez chercher, vous allez avoir un système d'essais-erreurs, vous allez travailler, vous allez voir les résultats. Et en fonction de ça, vous allez avoir un cheminement qui va faire que vous allez avancer et essayer de trouver des nouvelles propriétés. Après, de manière à ce que ça soit développé pour le grand public, il y a évidemment un certain nombre d'étapes qui est en fait un facteur d'échelle que nous, on ne peut pas réaliser au laboratoire.
Et ça prend combien de temps environ de pouvoir utiliser un nouveau matériau ?
Alors ça, c'est une question qui est très, très difficile, mais entre l'utilisation de votre matériau, le fait de l'avoir découvert et le fait de l'avoir développé dans l'industrie, on va prendre, on va dire, entre 5 et 10 ans, je dirais, dans le meilleur des cas.
Vous restez avec nous, on va continuer la discussion autour de la recherche sur les matériaux juste après une pause musicale avec Metronomy, Things Will Be Fine sur Radio Phoenix.
First time that I felt this weight on me, change the world. Things will be fine. Things will be fine. The sooner you tell someone, the better you will feel. Please put your trust in me. As soon as you do, I'll say when I've made up my mind. But you know, things will be fine. 'Cause I might save the day. Yeah, I might change the world. Yeah, I might save the day. Yeah, I might change the world. But I need you the most. Yeah, I need you to hold. Things will be fine. Things will be fine. Forget that I was only your lover.
C'était Things Will Be Fine de Métronomie sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours dans C'est pas faux, dédié aux matériaux innovants. En première partie d'émission, nous avons évoqué l'usage des matériaux, les différentes familles existantes et portons maintenant notre regard sur la recherche en matériaux innovants qui est menée ici à Caen.
Alors nous sommes toujours en compagnie du docteur Wilfried Prelier. Vous êtes directeur du laboratoire CRISMAT, le laboratoire de cristallographie et de sciences des matériaux. Quelles sont les recherches que vous menez au laboratoire CRISMAT ?
Alors au laboratoire, nous travaillons donc sur les matériaux, donc la fabrication de nouveaux matériaux avec des propriétés particulières, essayer de comprendre quelles sont les relations entre la fabrication, l'arrangement des atomes, comment c'est ce qu'on appelle chez nous la structure, et les propriétés physiques. Et tout ça avec l'idée d'essayer d'améliorer le quotidien des citoyens et de répondre aux grands enjeux sociétaux que sont en particulier la transition énergétique.
Depuis quand la science des matériaux fait-elle l'objet de recherches au sein de l'Université de Caen ?
Alors, ça a démarré, on va dire, dans les années 60-70, avec l'arrivée de la chimie du solide. Et donc, la science des matériaux est arrivée par la suite.
Et est-ce que l'on est sur une approche, quand on fait ces recherches, qui est plutôt scientifique, transversale, on va dire, pour développer ces matériaux innovants ? Est-ce que vous travaillez avec plusieurs autres laboratoires ?
Alors oui, bien sûr. On travaille, la recherche individuelle très localisée n'existe quasiment plus. Et en fait, ça, c'est dû au fait que les techniques en fait, ont énormément évolué et vous ne pouvez pas, à un endroit, avoir l'ensemble des compétences. Donc, vous êtes amené à travailler avec beaucoup de laboratoires. Et bon, récemment, nous, on travaille à la fois avec des laboratoires locaux, à la fois avec des partenaires français, l'Université de Rennes, Versailles, des choses comme ça, voire même aussi beaucoup de partenaires étrangers. On a beaucoup de collaboration avec l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, Singapour ou également les États-Unis.
Et quelles sont toutes les compétences qui sont nécessaires pour faire cette recherche, cette approche transversale ?
Alors, il faut avoir des compétences à la fois en chimie, bien évidemment, pour la fabrication, la synthèse des matériaux. On va avoir également beaucoup de compétences en physique. Donc ça, c'est plus pour la mesure des propriétés. Et puis également, on va avoir des compétences en informatique, en modélisation, pour essayer un petit peu de prédire et puis d'expliquer les différents phénomènes.
Et est-ce que vous avez des partenariats avec l'étranger ou avec des chercheurs, des laboratoires à l'étranger ?
Absolument. Alors, comme je disais juste avant, on travaille beaucoup avec l'Inde. On va travailler également beaucoup avec la Corée du Sud. On a un partenariat avec le Japon, Singapour, les États-Unis et puis aussi beaucoup de partenaires en Europe.
Parce que c'est des grands lieux de recherche et de développement en matériaux innovants ?
Absolument, absolument.
Alors, pour effectuer de la recherche en matériaux innovants, il y a un laboratoire spécifique qui a été créé. C'est le laboratoire commun de dispositifs passifs intégrés de Normandie. Quelle est la particularité et l'objectif de ce centre de recherche ?
Alors, l'idée de ce laboratoire commun, en fait, qui a été créé entre différents laboratoires cannais, dont le laboratoire Chrismat, et puis la société Murata, qui est localisée sur le site de Caen, enfin, juste en face du CHU. Alors, il faut dire qu'en fait, avec cette industrie, nous avions des collaborations depuis très, très longtemps. Historiquement, on a beaucoup travaillé avec la société Ipedia, en fait, qui existait avant la société Murata. Et il était important pour nous, comme pour la société, en fait, de formaliser ces travaux et puis d'avoir en fait des objectifs communs. Et c'est donc pour ça qu'on a créé en fait ce laboratoire commun.
Et alors, au laboratoire Chrismat, vous faites de la recherche pour trouver une alternative à l'indium, un matériau qui est très utilisé dans les écrans de nos smartphones, GPS ou encore des tablettes tactiles. Est-ce que vous avez réussi à trouver une solution alternative ?
Oui, alors donc récemment, on a réussi à trouver en fait un matériau alors, qui était connu, qui existait, qui était le strontium de vanadate, alors SRVO3, donc, qui est la composition chimique, hein, qui comprend donc, un atome de strontium, du vanadium et de l'oxygène. Et en fait, on s'est rendu compte que ce matériau-là, on pouvait arriver à le déposer sur du verre, ce qui pouvait avoir des applications importantes pour nos smartphones, avec des propriétés qui étaient similaires aux composés à base d'indium. L'avantage, c'est que ce composé ne va pas contenir de l'indium, qui est un matériau qui est rare et qui va être localisé dans des endroits géographiquement un peu plus compliqués et qui peuvent avoir, comme la Chine, voilà. Et donc, il était important aussi que des pays comme le nôtre puissent en fait trouver des alternatives à ce genre d'éléments.
Et quelles sont les caractéristiques du vanadate de strontium ?
Alors, justement, donc il a des propriétés à la fois de transparence, ça veut dire que vous pouvez voir à travers, mais également de conduction, ça veut dire qu'il peut faire passer le courant. Et ça, c'est des fonctionnalités dont on a besoin pour l'utilisation de vos smartphones et également de vos écrans tactiles.
Alors pourquoi on a besoin d'une solution alternative ? Est-ce qu'on pourrait pas réutiliser l'indium qui est déjà présent dans les matériaux existants ?
Alors, c'est en effet une voie qui peut être développée, mais c'est vrai que c'est pas la voie qu'on a choisie au laboratoire, puisque nous, on était plutôt dans la voie de production et d'essayer de trouver des solutions alternatives. Mais bien évidemment, il y a aussi des recherches, pas forcément dans notre laboratoire, mais qui visent à essayer de recycler en fait cet indium.
D'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai lu que le vanadate de strontium représentait un coût plus faible. Pourquoi ça fait pas déjà des années qu'on utilise le vanadate de strontium s'il coûte moins cher ?
Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas en fait les propriétés du vanadate de strontium et on n'avait pas forcément découvert en fait. Et puis il y a aussi le fait que dans l'industrie, vous allez utiliser un composé et une fois que ce composé fonctionne correctement, que la production est en route, vous n'allez pas nécessairement chercher quelque chose d'alternatif.
Et outre la problématique du prix qui est très cher de l'indium, quelles sont les autres problématiques auxquelles peut être confronté ce matériau ou plus généralement le secteur des matériaux et des composants électroniques ?
Eh bien, tout simplement parce que l'indium, il est majoritairement produit dans des pays sur le monde, et en particulier la Chine. Et en fait, on se rend compte qu'en 2015, 50% de la production d'indium était faite en Chine. Donc, on se retrouve rapidement avec une dépendance vis-à-vis de ces pays-là. Et donc, il est important pour des pays comme la France, comme l'Europe, de trouver en fait, de nouvelles alternatives.
En fait, c'est une problématique pour relocaliser en France ?
Absolument, pour relocaliser et aussi être moins dépendant de certains pays. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On l'a vu, on le voit récemment avec les événements en Russie.
Et l'idée, c'est aussi de développer et de faire de la recherche en France pour qu'il y ait, à terme, de la production en France.
Absolument.
Alors, depuis la crise sanitaire, il y a une crise aussi des semi-conducteurs qui a éclaté dans l'industrie. Est-ce que depuis ce moment, la demande dans la recherche des matériaux alternatifs a augmenté ?
Alors oui, il est tout à fait important et c'est aussi notre rôle de laboratoire scientifique public en fait d'essayer de trouver des alternatives de manière à essayer de trouver des solutions pour justement répondre à tous ces problèmes sociétaux quoi.
Et alors, une des problématiques de la recherche en matériaux, ça peut être l'obsolescence qui arrive très vite en fait dans la recherche. Comment est-ce que vous faites pour vous adapter continuellement au CRISMAT ?
Alors, à notre niveau, en termes de recherche fondamentale, c'est pas des choses qu'on va forcément, regarder. Je veux dire, on va vérifier que ce matériau-là, sur une durée raisonnable, en fait, les propriétés vont être conservées. Mais enfin, en tout cas, il n'est pas dans notre intérêt, pour nous, laboratoires scientifiques, en fait, d'intervenir en fait sur les propriétés à long terme. Ça, c'est plutôt voilà le rôle d'autres. Société.
Alors le laboratoire CRISMAT, c'est un laboratoire de sciences des matériaux. Vous n'avez pas fait que cette étude sur le vanadate de strontium. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres projets qui sont peut-être actuellement en cours sur les matériaux innovants ?
Alors bien évidemment, je ne peux pas vous donner tous les projets puisqu'il y a énormément de projets qui sont secrets, en particulier avec des industries ou avec d'autres secteurs stratégiques. Mais pour faire simple, on va travailler aussi beaucoup sur les matériaux pour des batteries. Essayer d'améliorer les propriétés et aussi résoudre certains problèmes d'éléments qui deviennent plutôt rares. On va travailler aussi beaucoup sur les matériaux thermoélectriques, donc toujours dans la problématique de la transition énergétique. Donc ça, c'est des matériaux qui peuvent être... où on va réutiliser la chaleur qui va être produite à certains endroits pour produire de l'électricité. Ça peut être utilisé, par exemple, dans les voitures.
Eh bien, merci beaucoup, Dr. Wilfried Prolier, d'être venu nous parler de la recherche en matériaux, mais aussi du laboratoire CRISMAT. Bonne journée à vous.
Merci.
Merci. Et voici l'agenda scientifique de la semaine.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Aujourd'hui, l'Université de Caen vous propose la projection du documentaire intitulé Animal, de l'écrivain et réalisateur Cyril Dion. 1h45 d'un voyage avec les protagonistes Bella et Vipulan qui vont tenter d'ouvrir les yeux sur la situation climatique, non pas en alertant mais en remontant directement à la source du problème, notre relation au monde vivant. Cet événement est réalisé dans le cadre du forum Normand Durable qui fédère les acteurs du changement et de la transition pour un modèle plus durable. Alors pour assister à cette projection, rendez-vous de 20h à 23h à l'amphi Pierre d'Or sur le campus 1. L'Université de Caen organise une journée de vaccination pour ses étudiants, pour les professeurs ainsi que pour le personnel. Ce sera ce vendredi, le 4 mars, de 10h à 14h et de 15h à 18h, salle S3037 au campus 2. Cette journée offre des créneaux de vaccination gratuits et sans rendez-vous en coopération avec l'Agence régionale de santé normande. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité, de votre carte vitale ou d'une carte européenne d'assurance maladie et aussi de votre passe sanitaire actuel si vous effectuez une dose de rappel. Étudiants internationaux, munissez-vous aussi de votre certificat de scolarité et d'une attestation d'affiliation à l'assurance maladie. Et enfin, vendredi 4 mars, c'est aussi la journée internationale des maladies rares. À Caen, le service de génétique du CHU prend en charge tous les Normands qui sont porteurs de ces maladies rares, qu'il y ait un traitement curatif ou non, lors de nombreuses consultations. Ce vendredi de 9h30 à 17h, le service de génétique du CHU vous propose donc de découvrir Cohérence, une exposition photographique créée par l'artiste Jamila Beljoudi Kalin sur l'errance diagnostique vécue et ressentie par des personnes touchées par une maladie rare et par leurs proches. L'expo se décline à travers 23 photographies au MOHO, 2 rue de la Gare, à Caen.
C'est pas faux, sur la recherche en matériaux innovants, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
À 13h, vous retrouverez Edgar pour la Méridienne. Merci à Alan qui réalisait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Phoenix.